France Musique.
Je savais pas que l'amour c'était une maladie. En tout cas, vous vous risquez rien. Vous vous êtes fait vacciner.
You're not Rosebud, are you?
What?
Rosebud. And your name is Jennings. Yes, goodbye, everybody.
Is it just because her family changed their name from Albrecht? Or do you think it's because all of you girls are bitches?
I guess.
Yeah, I think Paige is the same.
Monsieur, pardon. Vous n'avez rien contre la jeunesse.
Si, hey, bah j'aime bien les vieux.
C'est ça, là. この辺にも出世にもならん難しい草があるんだがついてくるか
はい Did you find what you were looking for?
No, with two shots in his back and one in his stomach Nobody important really
Cinéma Song par Thierry Jousse
Aujourd'hui, Gainsbourg Cinéma, deuxième partie Bonsoir. Pour la deuxième semaine consécutive, Serge Gainsbourg, ses métamorphoses et ses œuvres pour le grand écran seront notre fil conducteur pour cette soirée. La parution récente du coffret Le cinéma de Serge Gainsbourg nous offre en effet la possibilité de revenir à nouveau sur la carrière méconnue d'un compositeur de films qui fut aussi l'auteur d'Elisa et de Je t'aime moi non plus. Ce soir, pour en parler, je recevrai Jean-Pierre Sabart, arrangeur, co-compositeur et compagnon de route de Serge Gainsbourg du milieu des années 70 au début des années 80, Bruno Podalydès, cinéaste et même acteur, auteur récemment, enfin prochainement plus exactement, de Comme un avion, son dernier film qui sortira en juin prochain, et grand amateur de Serge Gainsbourg devant l'éternel, et enfin l'actrice Michèle Mercier, notre Angélique nationale, qui témoignera de son unique collaboration avec le grand Serge pour une chanson de film qui s'appelle « La fille qui fait tchic-tchic ». À la fin de cette émission, Charles-Pierre Vallière célébrera avec force vrombissement le retour de Mad Max, mais en attendant, mon actualité, c'est d'abord ceci.
Thank you.
Le thème de Gerbier, extrait de la bande originale de L'Armée des Ombres, pour commencer ce nouveau numéro de Cinéma Song, un thème signé Éric de Marsan. Alors pourquoi L'Armée des Ombres et pourquoi Éric de Marsan? Une actualité Melville, tout simplement. Quatre films qui viennent de ressortir entre la semaine dernière et cette semaine. La semaine dernière, c'était L'Armée des Ombres, précisément, le magnifique film de Jean-Pierre Melville, probablement le plus grand film français et même mondial sur la résistance française, justement, pendant la Deuxième Guerre mondiale, avec Lino Ventura, Paul Meurice et Simone Signoret, notamment. Un film absolument magistral, dont la musique donc était signée Éric de Marsan. Il y a également dans les ressorties melvilliennes Le Doulos, musique de Paul Misraki. On en reparlera dans quelques semaines puisque je consacrerai une émission à Paul Misraki au mois de juin. Un flic, musique de Michel Colombier, le dernier film de Melville, assez méconnu et très beau, avec Alain Delon et Catherine Deneuve. Et puis Le Cercle Rouge, toujours avec Alain Delon, Yves Montand, Gian Maria Volonté, Bourville, François Perrier, N'en jetez plus. Et la musique à nouveau de Éric de Marsan, le compositeur de deux films de Melville, ce qui il est le seul d'ailleurs à avoir ce statut-là dans l'œuvre de Melville. Il est même présent trois fois dans la filmographie de Melville, Éric de Marsan, puisqu'il était également l'arrangeur et le chef d'orchestre de la musique du Samouraï, signé François de Roubaix. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a connu de très près Jean-Pierre Melville, alors qu'il était un tout jeune compositeur d'à peine 30 ans. De Marsan avait fait ses armes, donc notamment avec de Roubaix et un certain nombre d'autres compositeurs. Et sa présence dans les films de Melville tient certainement à cette rencontre pour le Samouraï, d'abord pour l'Armée des Ombres, puis ensuite il a remplacé Michel Legrand pour Le Cercle Rouge, puisque Michel Legrand s'est vu refuser sa partition, la partition qui a été publiée ensuite beaucoup d'années plus tard dans la collection Écouter le cinéma, ou en tout cas dans le coffret Michel Legrand qui est paru il y a 2 ans. Alors Éric de Marsan, donc évidemment il faut aller revoir ces films de Melville qui sont splendides. On a cessé de redécouvrir Melville depuis une vingtaine d'années. On a vu à quel point il avait influencé tout un pan du cinéma asiatique, tout un pan du cinéma américain, et ses musiques sont aussi remarquables parce que c'était quelqu'un qui avait un goût très prononcé pour la musique et notamment pour le jazz. Il adorait le Modern Jazz Quartet en particulier, et notamment la musique aussi de John Lewis, composée pour le film Le Coup de l'escalier, que Melville ne cessait de revoir et pour lequel il avait demandé d'ailleurs à Éric de Marsan de composer une sorte de paraphrase entre guillemets pour Le Cercle Rouge. Alors Éric de Marsan, on va le retrouver également dans l'actualité avec deux éditions ou rééditions très récente, en tout cas d'abord les musiques qu'il a composées pour deux séries télé remarquables, Les Témoins, série récente avec notamment Thierry Lhermitte, réalisé par Hervé Admar, et puis Les Oubliés qui avait été réalisé en 2007 avec cette fois-ci Jacques Gamblin, deux séries françaises qui font vraiment partie du haut du panier pour France Télévisions. Donc les musiques sont publiées sur le label Music Box Records, et on voit que Éric de Marsan, beaucoup d'années après L'Armée des Ombres, n'a rien perdu de son savoir-faire. Et puis on va retrouver également Éric de Marsan dans les années 70 dans un registre complètement différent pour un film rare, le deuxième long métrage de Jérôme Savary, période Grand Magic Circus, un film qui s'appelle La fille du garde-barrière, que je n'ai pas eu malheureusement l'occasion de voir, qui avait été classé un peu dans les films semi-porno à l'époque, ou en tout cas très érotique, c'est d'ailleurs probablement très exagéré d'après ce que m'a dit Éric de Marsan lui-même. Et il y avait également une collaboration avec Roland Topor dans ce film La fille du garde-barrière, partition quasi inconnue ou en tout cas très rare. Et puis donc ces deux séries télé, tout ça chez Music Box Records, pardon pour ce petit problème de diction. On va écouter tout simplement un extrait de la bande originale des Témoins, donc série récente, et de la bande originale de La fille du garde-barrière, pour voir à quel point Éric de Marsan est capable d'aller dans des directions extrêmement variées, voire contradictoires.
Thank you.
Un extrait de la bande originale de La fille du garde-barrière, dans laquelle vous avez pu entendre insérer, dans cette musique assez jazz, une espèce de chanson, enfin une chanson, une petite chanson chantée par une sorte de chorale improvisée, une chanson qui s'appelle La vie d'une femme mariée où Mona et son fils, dont les paroles étaient signées Roland Topor, qui était également le scénariste, le co-scénariste du film avec Jérôme Savary. Donc période, je le disais, grand magic circus. J'ai oublié de préciser que La fille du garde-barrière était un film muet, en fait, disons dans un style un peu à la grille, mais avec quelques scènes érotiques et burlesques. Bon voilà, et c'était Eric de Marsan qui avait signé la musique du film qu'on retrouve donc aujourd'hui, alors qu'il y avait juste eu un 33 tours publié à l'époque. Ce film n'avait pas eu du tout de succès. On le retrouve donc chez cette bande originale assez totalement complète, avec même des inédits, chez Music Box Records, ainsi que les bandes originales toujours signées Eric de Marsan pour les deux séries télévisées de Hervé Admar, Les Oubliés en 2007 et surtout Les Témoins, dont nous avons écouté un extrait, Les Malheur de Paul Maisonneuve, donc dans un style radicalement différent, très orchestral, très sombre, alors que le jazz sautillant et un peu anévin de La fille du garde-barrière, évidemment, allait dans une direction totalement opposée. C'est le charme de la musique de film et c'est le charme aussi de la carrière d'Éric de Marsan, qui, de Jean-Pierre Melville, dont on parlait tout à l'heure, jusqu'à Hervé Admar, a navigué dans des univers très variés, notamment chez Jean-Pierre Mocky, par exemple, dans les années 70. Donc, évidemment, on était très très loin du cinéma de Melville et de son côté beaucoup plus solennel. On pourrait dire qu'on a pu entendre tout à l'heure dans l'Armée des Ombres. En tout cas, Éric de Marsan est à l'honneur. Et c'est tant mieux parce que c'est un compositeur qu'on aime beaucoup dans Cinéma Song.
Et vous savez, j'ai fait beaucoup de films comme acteur, de mauvais films, pour la plupart. Et un jour, j'ai rencontré Abraham Polonsky. Et à qui je parlais de cinéma en tant que réalisation, il m'a dit qu'il n'y avait pas de complexe à avoir. Si j'avais le sens des cailloux, c'est-à-dire des objectifs, je n'avais pas à me gêner. Là-dessus, j'ai eu une proposition d'un producteur qui m'a fait confiance.
Alors, qu'est-ce qu'il faut rechercher si l'on veut s'amuser à chercher des parallèles du Baudelaire, du Pasolini ou...
Je crois qu'il y a beaucoup de Gainsbourg.
Beaucoup de Gainsbourg.
Un peu de Boris Vian, peut-être.
Est-ce que vous croyez que les fantasmes de Gainsbourg peuvent intéresser le public ?
À en croire les tirages de la chanson, oui.
Oui, parce que la chanson permettait peut-être une visualisation personnelle. Or là, vous imposez la vôtre.
Oui, c'était, si vous voulez, justement, non plus en 69, c'était numéro 1 au hit-parade anglo-saxon, ce qui n'est jamais arrivé à une chanson française, fermé la parenthèse. Et là-dessus, il m'a été rapporté un mot d'un lord anglais qui fait partie de la famille royale. Pour ne pas citer son nom, il est photographe. Qui a été enthousiasmé parce que il n'y a pas de correspondance du mot rein en anglais. Je viens entre terrains. Kidney, ça veut rien dire. Ça, c'est médical, pathologique. Et il a dit à un de ses copains, c'est fabuleux, cette chanson parle de sodomie. Alors ce qui m'a donné, ça m'a fait rire, et puis mon subconscient a analysé ça, l'a gardé, et j'en ai fait le sujet de mon film.
Si vous voulez... Ça n'est pas qu'un gag.
Ah non, si vous voulez, c'est de l'amour. Non, c'est un drame psychologique, ce film. C'est de l'amour fiction.
Tu signes avec Lord Snowden, alors, ou pas ?
Alors...
Il l'a dit.
Si vous voulez, si j'avais situé... Ce qui va être le plus choquant, c'est de devoir situer ça avec des camionneurs. Mais si j'avais situé ça dans un milieu aristocratique, on aurait parlé de décadence et de viscontienne, ce que je ne voulais absolument pas. Alors, il est évident que ça... assez dur, mais très controversé, parce que c'est dans un milieu... Je décris des êtres frustres et désespérés.
tous reconnu le thème célébrissime de Je t'aime moi non plus, mais ça n'est pas la version la plus connue puisque c'est la version du film éponyme, le premier long métrage de Serge Gainsbourg en 1976, arrangé par Jean-Pierre Sabar, qu'on va retrouver bientôt dans cette émission. Je t'aime moi non plus, le thème donc de cette chanson qui est devenu un film donc 7 ans plus tard. Comme l'expliquait d'ailleurs dans une archive de 1976 de Radio France, Serge Gainsbourg, on entendait d'ailleurs fugacement la voix de Guy Bedos qui était invité avec Gainsbourg dans ce journal radiophonique, et évoquant donc ce film qui, comme il le disait lui-même, a pour thème la sodomie, ou en tout cas met en scène les amours interlopes entre Jane Birkin et Joe D'Alessandro. Donc premier long métrage de Gainsbourg, il en réalisera 4 au total. Equator, Charlotte Forever et Stan the Flasher suivront donc dans les années 80 et même au tout début des années 90 pour ce qui concerne Stan the Flasher. Serge Gainsbourg, donc on le retrouve pour la deuxième semaine consécutive dans Cinéma Song, à l'occasion donc de l'apparition de ce coffret remarquable, le cinéma de Serge Gainsbourg. On trouve non pas l'intégrale des musiques de films de Gainsbourg, mais enfin en tout cas un choix extrêmement pléthorique et remarquable. On va retrouver ce soir, alors la semaine dernière on avait reçu Stéphane Lerouge qui est précisément l'architecte de ce coffret, on avait reçu Jean-Claude Vanier qu'on retrouvera dans Cinéma Song la semaine prochaine pour... Il nous parle de sa carrière de musicien de film en dehors de Gainsbourg. On avait reçu également Pierre Koralnik, l'auteur de Anna, la comédie musicale Anna. Cette semaine, on retrouve donc d'abord Jean-Pierre Sabar, qui était vraiment un complice fondamental pour Gainsbourg dans cette fin des années 70, puisqu'il a vraiment été l'arrangeur de toutes ses musiques de film et le co-compositeur, comme on le sait. Voilà, les arrangeurs étaient également les co-compositeurs des musiques de Serge Gainsbourg pour le cinéma, notamment, et parfois aussi pour la chanson. On retrouvera également Bruno Podalydès, le cinéaste grand amateur de Serge Gainsbourg, ensuite, et puis pour terminer plus fugacement mais de façon très agréable, l'actrice Michèle Mercier, la fameuse Angélique des années 60 mais qui est toujours là, qui nous expliquera sa collaboration avec Gainsbourg pour une chanson. D'abord Jean-Pierre Sabar, donc personnage sans doute un peu méconnu, homme de l'ombre, musicien de studio d'abord puis ensuite arrangeur qui a travaillé avec beaucoup de gens dans la variété, notamment Gainsbourg bien sûr, mais également Maxime Le Forestier par exemple, ou même Michel Sardou. Il va nous parler tout de suite de sa rencontre avec Serge Gainsbourg.
J'ai rencontré donc Serge, et puis quand il a rompu avec Vanier, comme il a rompu avec Goraguer et comme Colombier, comme moi plus tard d'ailleurs, c'était pour toujours pour cette question de crédit, parce que on était plus que simple arrangeur, on faisait partie, on était co-compositeur. Et il a toujours co-signé vis-à-vis de la SACEM, mais au générique, on n'a jamais été crédité en tant que co-compositeur. Et c'est ce qui a valu un peu d'agacement de la part du précédent et de moi-même, c'est que tôt ou tard, il y avait ce problème qui revenait à chaque fois. Quant à ce qu'on mettra musique de Gainsbourg et Sabar, et Vanier, et Goraguer, etc. Et ça, il voulait absolument pas. Au crédit, c'était la musique était au crédit de Gainsbourg, et l'arrangement. On apparaissait que comme arrangeur, c'est tout. Et l'arrangeur, les gens savent pas trop ce que c'est. Quoi. Ça, c'est une des raisons pour laquelle il s'est toujours séparé de ses collaborateurs. Et voilà. C'est comme ça que je me suis séparé de lui, et comme les autres.
Dans la mesure où vous travaillez justement dans l'équipe de Vanier, que vous aviez déjà donc une familiarité avec Gainsbourg et avec sa musique, et les musiques qu'on composait avec Vanier, est-ce que ça vous a facilité la tâche? Est-ce que vous connaissiez déjà un peu finalement les codes, la méthode de travail, et en quoi consistait cette méthode finalement de répartition entre vous, entre d'un côté Gainsbourg et de l'autre côté vous, Jean-Pierre Sabar?
Pas vraiment, sinon que, évidemment... Lorsque j'étais pianiste, il se comportait en studio vis-à-vis de Vanier comme avec moi, c'est-à-dire qu'il laissait faire certaines choses et puis il disait, il savait ce qu'il voulait pas, donc ça, il savait très bien ce qu'il voulait pas, et quand quelque chose lui déplaisait, il le disait en studio, et je savais que ça allait être pareil avec moi, et ça s'est produit de cette manière, quoi, à chaque fois. C'est-à-dire que il y a des moments où il intervenait, mais auparavant, dans je veux dire la gestation, on peut pas dire que je savais comment il procédait. Moi, j'ai bien vu que c'était souvent un départ, et puis j'intervenais, comme a dû faire Vanier, j'intervenais au niveau de la couleur, au niveau de la rythmique, au niveau de... c'était les choses où il ne savait pas trop ce qu'il voulait, mais comme il savait ce qu'il ne voulait pas, ben, à force, on arrivait à trouver une façon de défendre la musique, quoi. Je t'aime moi non plus. Il avait un démarrage d'un thème. Il me l'a joué au piano. Enfin, il me l'a joué au piano comme ça. Et très simplement, il m'a demandé d'écrire un pont, ce qu'on appelle en jargon de musicien un couplet, quoi. Pas un couplet, mais une chanson en général. Il y a un thème, et puis il y a ce qu'on appelle un pont, puis de nouveau on réexpose le thème. Et je suis intervenu sur le pont, et puis ensuite il m'avait un petit peu demandé ce que je voyais comme musique. À la suite de ça, je lui ai dit que la couleur country aurait convenu au film. Il en était d'accord, et on a imbriqué de le banjo et toutes ces choses-là qui se trouvent typiquement de la musique country et qu'on a intégré au thème. Et voilà, c'est ce qui a fait la collaboration, quoi.
Il y a, dans la période où vous avez travaillé avec lui, il y a Je t'aime moi non plus, mais il y a également des films, on va dire, peut-être plus oubliables, ou en tout cas comme Madame Claude ou Goodbye Emmanuel, donc des films plutôt érotiques. Est-ce que ça avait une importance pour lui, au fond? Parce que les musiques sont, maintenant, quand on les réécoute, on les trouve vraiment bien, mais on se réfère pas forcément aux films eux-mêmes. Est-ce que pour lui, ça avait de l'importance, finalement, les musiques de films, vous pensez?
Quelquefois, ça avait rien à voir avec ce qu'il avait vu du film. C'était peut-être des chansons qu'il avait plus ou moins, enfin des thèmes qu'il avait plus ou moins travaillé auparavant, qui n'avaient rien à voir avec, avec le film, et qui, il pensait que ça collait à ce moment-là. Et c'est souvent ce qui s'est passé. C'est comme ça que il proposait souvent plusieurs thèmes au metteur en scène de chansons qu'il avait fait auparavant, et que c'était à l'arrangeur de lui mettre dans le style de ce qu'il faisait, de ce qu'il faisait à ce moment-là pour le film, quoi.
Ce dont on s'aperçoit aujourd'hui, quand on, justement, quand on écoute les musiques de différentes époques, de films ou parfois de chansons, c'est qu'il y a un style, on pourrait dire, il y a une période Goraguer, une période Colombier, une période Vanier, une période Sabar, qui sont assez reconnaissables finalement dans les couleurs orchestrales, dans certains traits. Comment vous pourriez définir, enfin, est-ce que vous avez la possibilité de définir un peu votre style ou la manière de vous aborder un peu ces musiques-là?
Oui, ben, c'est certain. D'ailleurs, je lisais l'interview de Goraguer où il disait que c'était l'époque où lui était pianiste de jazz et de la période plutôt californienne du jazz, le West Coast, oui. On peut dire que ça a fait partie de la période Goraguer. Vanier, c'était il aimait bien le côté orientalisant, et donc ça a fait partie de, ça a été la signature de Vanier. Colombier, je vois moins. Et moi, il se trouvait que j'aimais bien la country, donc j'avais un peu influencé pour Je t'aime moi non plus. Et puis il y a eu le côté reggae, parce que moi, j'ai toujours été assez fan du reggae. J'étais un fan de Bob Marley, donc tout ça. Et ça, je l'ai un petit peu mis dans Goodbye Emmanuel. Ça, on peut dire que la période où j'interviens, c'est le country et puis aussi le reggae. Voilà, c'est ce qu'on peut dire. Il avait des tics, oui. L'afterbeat de guitare très sec, et ça a toujours été. Ça datait de même du Je t'aime moi non plus qu'il avait fait avec Jane Birkin. Bah, on peut dire qu'il était très au courant toujours de la musique qui se faisait à l'époque. Ça, il a toujours été très sensible à ça. Quand il critiquait un arrangement, c'était parce que souvent ça lui paraissait daté. C'était moins dans l'esprit de ce qui se faisait à l'époque, quoi. Et ça, il avait ce sens très particulier, pas de la mode, mais de l'air du temps, quoi. Thank you.
Vous vous souvenez quand même des circonstances précises de la rupture avec Gainsbourg pour revenir à ce moment-là?
Oui, c'était à l'époque où on faisait la bande-son du film de Blier.
D'une soirée.
Avec Depardieu et c'était Michel Blanc. Il proposait un petit peu toujours les mêmes références, quoi. C'est-à-dire Stan Kenton, et des choses comme ça. Et c'est là que je dis, oh, c'est là que je me suis mis à un peu à le chambrer. Et devant Blier, et ça ne lui a pas plu. Il m'a demandé de plus revenir. Et voilà, et c'était comme ça. Comme je savais que c'était à peu près l'époque où la rupture devait arriver, ben, j'ai considéré que c'était la rupture et ça a été fini. Voilà. Et c'est là qu'il est parti. Il est parti à New York et qu'il s'est mis à travailler avec son groupe new-yorkais.
Un extrait de la bande originale de Tenue de soirée. À l'instant, vous avez entendu un certain nombre de musiques pendant cette séquence consacrée à Jean-Pierre Sabar avec son témoignage exclusif, on pourrait dire, parce que c'est assez rare que Jean-Pierre Sabar s'exprime dans les médias. Ça a été donc le dernier arrangeur, on pourrait dire, patenté, français en tout cas, de Serge Gainsbourg, de 76 à 84 environ. Il a travaillé donc sur notamment les bandes originales de Goodbye Emmanuel ou de Je t'aime moi non plus. On a écouté des extraits donc de ces bandes originales, Emmanuel Alzeci, plutôt reggae donc pour Goodbye Emmanuel, et puis deux extraits de Je t'aime moi non plus, le thème au début de la balade de Johnny Jane, très célèbre, dont il existe une version chantée par Jane Birkin qui ne figure pas dans le film, et puis un thème franchement country où le banjo joue un rôle non négligeable, le banjo au bord du Styx. Tous ces morceaux figurent dans le coffret Le cinéma de Serge Gainsbourg, donc paru récemment, qui nous donne l'occasion de faire ces émissions pour évoquer donc les musiques de films de Gainsbourg. Cette période est peut-être moins connue d'ailleurs que la période des années fin 60, début 70, mais elle est intéressante également, on l'évoque donc ce soir, et on va passer maintenant à quelqu'un qui n'a pas du tout été collaborateur de Gainsbourg, ni même lié personnellement à Gainsbourg, il est trop jeune pour ça. C'est le cinéaste Bruno Podalydès, amateur de Gainsbourg, grand amateur de Gainsbourg même on pourrait dire, et dont le prochain film sortira donc le 11 juin je crois, ça s'appelle Comme un avion. J'ai eu la chance de le voir en projection de presse, comme on dit, ou en avant-première, et c'est un film tout à fait remarquable d'ailleurs, que je vous engage d'ores et déjà à aller voir. On en reparlera sans doute au moment de sa sortie. Il n'y a pas de musique originale dans ce film d'ailleurs, mais il y a un choix de morceaux tout à fait judicieux. Bruno Podalydès n'était pas venu donc pour faire la promotion de son film, mais pour parler de Gainsbourg, et il l'a fait. On l'écoute tout de suite.
France Musique.
Au départ, c'était l'artiste à défendre, parce que mon père, Gainsbourg, le rendait dingue de le voir juste après la télévision. Donc c'est une sorte de poète que je me suis choisi moi. Et l'artiste total, c'est vrai que du coup, quand j'aime Gainsbourg, j'ai aimé les quelques croquis qu'il a bien voulu nous montrer. Ses musiques, ses clips, son travail de cinéaste. Je voulais même faire un livre sur ses films que je défendais bec et ongle, même si parfois je m'y ennuyais, mais cet ennui m'intéressait. Et parce que j'ai retrouvé dans ses films en fait sa musique au fond, mise en image, mais j'ai toujours trouvé le style Gainsbourg prégnant, quelle que soit la forme choisie.
Est-ce que vous avez une idée, ou vous pourriez dire qu'est-ce que c'est le style Gainsbourg, même si c'est une question un peu, j'imagine, un peu difficile, mais disons, qu'est-ce qui forme un peu le style Gainsbourg?
C'est vrai que suivant les époques, c'est quand même très différent. Je suis pas sûr de pouvoir identifier toujours une musique de Gainsbourg, de cinéma, suivant les arrangeurs, suivant les films, les périodes. Bon, bref, donc je botte pas en touche en disant ça, mais non, ce qui m'a touché, c'est par exemple, j'ai revu, il y a un livre qui est sorti sur ses scénarios écrits, et que dès le stade du scénario, la patte Gainsbourg était là, très forte, avec un attachement réel au cinéma et profond, c'est-à-dire pas juste enregistrer, trouver prétexte à illustrer ses musiques, etc. Mais dans un vrai langage cinématographique, il était touchant, il écrivait même les focales qu'il avait déjà choisies, le travelling avant, les mouvements de caméra. Ça, c'est ce rêve de cinéma, au stade du scénario, m'a beaucoup ému. En fait, toujours trouver qu'au fond, même dans ses musiques, y compris ses chansons, il rêvait de cinéma. C'est-à-dire qu'il a usé beaucoup des métaphores de cinéma dans ses chansons, mais beaucoup de ses chansons procèdent comme des petits films. On serait pas étonné d'entendre le clap. Enfin, j'ai en tête la décadence qui commence par une sorte de dialogue. Tourne-toi, non, pas comme ça. Enfin, et il y a presque un générique de fin à la fin de la chanson par les montées de violon. Donc du coup, l'aller-retour est assez facile entre ces films et ces musiques.
Le soleil est rare et le bonheur aussi. L'amour, c'est garoulon de la vie. Le soleil est rare et le bonheur aussi, mais tout bouge au bras de mélodie. Les murs d'enceinte du labyrinthe s'entrouvent sur l'infini. Le soleil est rare et le bonheur aussi, mais tout bouge au bras de mélodie. Les murs d'enceinte du labyrinthe s'entrouvent sur l'infini.
En fait, mes deux longs métrages préférés sont L'homme à tête de chou et Mélodie Nelson. Si vous voyez ce que je veux dire. Enfin, moi, j'ai aimé découvrir Gainsbourg par ces deux disques, comme on dit concept, et qui procédaient un peu comme des films et des histoires. Donc, la métaphore continue et ça, c'est un attachement aussi personnel, évidemment. Mais sinon, non, j'ai toujours réagi violemment contre les nouveaux Gainsbourg en musique. Je me souviens même, c'était pour You're Under Arrest, j'avais écrit Tu n'es plus qu'un vieux pharaon. Enfin, je l'insultais dans ma propre dédicace sur mon propre disque. Il me fallait toujours un temps, parce qu'il était moderne, il allait de l'avant, mais il me surprenait. Donc, quand il est passé au reggae, ça m'a désappointé. J'ai eu l'impression qu'il faisait du sous Bob Marley au début. Puis maintenant, quand je réécoute, je vois à quel point c'est riche. Mais j'ai toujours, c'est le propre des gars qui sentent les vents et qui vont même de l'avant, il m'a toujours un peu désarçonné. Et dans son cinéma aussi, j'ai pas un goût personnel pour les films, entre guillemets, léchés, esthétiques. Alors lui était apporté un soin évident au coupe-papier qui était au premier plan du bureau, etc. Et ça, j'aime quand finalement je me retrouve à entrer dans un univers. Et là où je dis que je défends Gainsbourg comme grand cinéaste, c'est parce que c'est une de mes, comment dirais-je, de principes, c'est qu'il nous fait rentrer dans son propre temps, et c'est pour ça que je défends Équateur, où il y a un rapport au temps dans le film qui m'intéresse beaucoup. Et j'avais été voir Gainsbourg à l'époque, était venu présenter ses films lors d'une nuit au Gaumont Alésia, et il avait parlé de cette anecdote sur Équateur. Il parlait de ce long plan en pirogue, la caméra est sur un pont, et on voit la pirogue qui débouche à l'horizon de la rivière, le fleuve, et qui pagaie vers nous. Et on se dit, attends, il ne va pas venir jusque-là quand même. Et Gainsbourg impose ce rythme avec une rythmique musicale très belle qui est un mélange là, de musique, de film à la Gainsbourg et de son réel. C'est comment les pagayeurs scandent. Ça fait tom, 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 tom. Et il y a une espèce, je pourrais le faire longtemps pour vous accéder à l'hypnose que crée ce plan. Et il y a un Africain qui lui a dit « Monsieur Gainsbourg, c'est toute l'Afrique, ce plan. » Et c'était très beau, quoi. Enfin, et j'ai toujours rêvé de réentendre. Donc, c'était une belle fusion entre musique et cinéma.
Est-ce qu'il y a des musiques que vous aimez plus particulièrement, des musiques de films que vous aimez plus particulièrement, ou des moments dans cette trajectoire qui vous marquent particulièrement?
Comme ça, sans réfléchir, je dirais Je t'aime, moi non plus. D'abord parce que c'est un film de Gainsbourg. C'est un thème qu'il avait déjà initié avant dans d'autres musiques de films. Donc ça, c'est rigolo de voir cette musique sous-marin qui hante comme ça l'œuvre de Gainsbourg. Et parce que je la trouve sublime, quoi, y compris les orgues.
Bruno Podalides.
L'aspect religieux qu'il y a derrière. Et à l'opposé de ça, j'aime beaucoup L'herbe tendre, qui est pour moi une scène absolument mythique de cinéma, comme partie de campagne de Renoir. C'est-à-dire le fait que Michel Simon et Gainsbourg chantent et que c'est une prise en son direct, il n'y a peut-être pas eu 15 prises. Après, il y a eu un instrumental de rajouter, mais c'est tellement la grâce, ce petit moment de ce sacré grand-père-là. Qui a habité d'ailleurs le tournage de mon dernier film. Je l'ai pas mise, cette chanson, parce que bah, pour moi, elle fait partie d'un autre film, mais c'est un hymne, quoi. Et entendre les vers qui s'entrechoquent, enfin, c'est pareil, là, le mélange de son direct et une mélodie très belle qui pourrait faire partie de ces grandes chansons comme celle de La Belle Équipe où Gainsbourg touche aussi à la chanson populaire, quoi. Donc, qui peut porter tout un film. On met toujours la chanson, c'est en tête de disque quand on sort une musique de film, c'est toujours la chanson qui est la première plage. Donc, j'ai espèce de naïveté populaire comme ça de m'accrocher encore une chanson. Alors qu'après, quand je réécoute les instrumentaux, évidemment, je les apprécie aussi. Parce que, encore une fois, je me répète, mais j'ai l'impression d'accéder à une sorte de petit film dans le film grâce à la chanson. Mais j'adore trouver les instrumentaux, de Gainsbourg, enfin, j'avais acheté le disque de Je t'aime, moi non plus, parce que toutes les déclinaisons, il y a un moment juste que l'orgue qui joue, c'est très très beau, et pour Stan the Flasher, j'aimerais aussi beaucoup, j'espère, trouver un jour les instrumentaux de Stan the Flasher. Les déclinaisons, c'est là que l'imagination s'envole, parce que, forcément.
Avoir vécu le cul dans l'herbe tendre et d'avoir su m'étendre quand j'étais amoureux. J'aurais vécu obscur et sans esclandre en gardant le cœur tendre le long des jours heureux. Pour faire des vieux os, faut y aller mollo, pas abuser de rien pour aller loin, pas se casser le cul, savoir se fendre de quelques baisers tendres sous un coin de ciel bleu. Pas se casser le cul,
savoir se fendre
de quelques baisers tendres sous un coin de ciel bleu. C'est pourtant bien. C'est vrai, c'est vrai.
Si j'ai eu la chance merveilleuse de pouvoir penser à Gainsbourg avant un film, en quoi est-ce qu'il m'amènerait quelque part, certainement, enfin, c'est évident même, mais ça, ça fait rêver, ouais, puisque je sais que ça a été le cas plusieurs fois, que Gainsbourg a été engagé dans le projet assez tôt, notamment avec Claude Berry, et ça, je me dis, ça, je sais que ça m'aurait entraîné, bon, comme je suis plutôt dans la comédie, avec Gainsbourg, ça se pas forcément facile, je trouve, mais c'est une telle sensualité, il y a tellement de choses qui vont à l'encontre un peu de la rigolade que. Mais c'est vraiment un de mes regrets, moi, c'est de ne pas avoir rencontré Gainsbourg, de ne pas pu l'avoir approché. La seule fois où je l'ai vu, c'était à cette nuit au Gaumont à Lésia. Et je lui ai posé une question. Et j'étais tellement content de ma question qui a fait rire toute la salle que je ne me souviens plus de sa réponse. Un de mes immenses regrets. J'avais été impressionné par « Je t'aime, moi non plus », avec son fameux thème. Et donc, j'avais demandé, est-ce que c'était la première fois qu'il prenait une caméra par derrière. Et donc, waf, 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 gros rire. Et donc, je ne sais plus s'il m'avait répondu qu'il avait fait des courts-métrages avant, etc. Je sais depuis qu'il en avait fait, mais et puis des clips, mais je pourquoi je parle de ça? Parce que c'est genre, évidemment, c'est trop la classe.
Thank you.
J'avais pris la javanaise de Gainsbourg pour Dieu seul me voit, qui est comme une valse, enfin qui a à trois temps, et j'en ai fait un truc à quatre temps grâce à un arrangeur pour une fanfare. Et je m'étais rendu compte à quel point cette musique était déclinable en fanfare, comme Je t'aime moi non plus peut être déclinable comme en oraison funèbre. Elle a une puissance de Gainsbourg qui n'en finit pas, à mon avis, de ricocher et de reprendre. Donc j'aimerais tôt ou tard reprendre les musiques de Gainsbourg dans un film et autrement que tel qu'on a pu l'apercevoir la première fois. Pas pour forcément pour l'anoblir, mais pour la... Je sais que la javanaise... J'avais été filmé aussi quand Gainsbourg est mort. J'avais été au Mont-Valérien, là où il était exposé dans une chambre ardente, je peux comment on dit. Et j'avais posé la question aux gens, que leur chanson préférée, ils me la fredonnaient. Et ce qui m'avait touché, c'est que la javanaise revenait vraiment en majorité, et de tout âge, hein, ce qui est le propre de vraiment la chanson populaire. Et donc j'ai l'impression que chez Gainsbourg, c'est peut-être un vieux combat contre mon père aussi, mais que cette dimension purement populaire est encore avancer, explorer, malgré tous ces tubes. Hein.
Dernière question un peu idiote par définition, mais je vais la poser quand même. Si vous aviez une chose à garder de Gainsbourg, une chanson, une musique de film, un film, un tableau, j'en sais rien, n'importe quoi, une apparition à la télé, enfin, puisque finalement l'œuvre de Gainsbourg, elle est multiforme par excellence, qu'est-ce que vous garderiez ou qu'est-ce... Je ne sais pas forcément ce que vous préférez dans l'absolu, mais qu'est-ce que vous avez finalement, quelle réminiscence vous avez, qu'est-ce que vous auriez envie de garder de ça?
Ben, ce serait, pareil, il faut répondre sans réfléchir, ce serait jeter moi non plus et sa petite sœur, son petit frère, la décadence. Parce que cette contradiction du je t'aime, moi non plus, qui est archi gainsbourgienne, quoi, du oui et non en même temps, donc c'est au cœur de ce qu'il a porté, je crois.
Tourne-toi.
La décadence par Serge Gainsbourg et Jane Birkin, une chanson préférée de Bruno Podalydès qu'on entendait auparavant témoigner, donc de non pas de son rapport à Gainsbourg, enfin si de son rapport à Gainsbourg, mais pas en tant que collaborateur, mais en tant qu'amateur de Gainsbourg et quelqu'un qui connaît extrêmement bien l'œuvre de Gainsbourg sous toutes ses formes, comme on a pu l'entendre dans ses différentes interventions pour Cinéma Song sur France Musique. On a écouté donc la décadence à l'instant, mais auparavant des extraits de bandes originales comme un extrait de Stan the Flasher, le dernier long métrage de Serge Gainsbourg, pas tellement longtemps avant sa mort. Le fameux duo entre Serge Gainsbourg et Michel Simon pour le film de Jacques Poitrenaud, Ce sacré grand-père, cette chanson qui s'appelle L'herbe tendre, avec des arrangements également à un certain moment de Michel Colombier. Auparavant encore un extrait du film, enfin de la musique du film Équateur, signé Serge Gainsbourg. Et encore avant, la fameuse valse de Mélodie pour l'album Mélodie Nelson, interprétée par Serge Gainsbourg et co-composée à par Jean-Claude Vanier, qu'on retrouvera la semaine prochaine dans Cinéma Song, qui était déjà là la semaine dernière d'ailleurs pour parler de Gainsbourg. Alors on va terminer cette émission, on a parlé beaucoup de la dernière partie de l'œuvre de Gainsbourg, qui est pas celle dont on parle le plus souvent finalement, entre 1973 et le début des années 90, 1976 et le début des années 90. On va retrouver pour un petit flashback autour de l'année 1966-67 avec l'actrice qui a fait rêver tellement de Français dans les années 60 notamment, Michel Mercier, fameuse Angélique, mais on avait également vu dans des films comme Tiré sur le pianiste, par exemple, auparavant. Michel Mercier qui m'a accordé un entretien par téléphone puisqu'elle vit à Cannes. Ça tombe bien puisque le festival s'est ouvert hier. Michel Mercier, qui est peut-être dans une salle du festival, je ne sais pas, à cette heure, m'a accordé un petit entretien pour raconter un peu sa collaboration avec Gainsbourg sur une chanson composée pour le film de Michel Audiard, Une veuve en or, une chanson qui s'appelle La fille qui fait tchic-tchic et qui a été inédite pendant très longtemps, qui a été exhumée par Michel Mercier, par Stéphane Lerouge et également par Michel Mercier elle-même, qui avait un peu égaré voilà la cassette. Mais enfin bref, tout ça a réapparu et Michel Mercier nous explique un peu les circonstances de cette collaboration avec Serge Gainsbourg.
Donc j'ai rencontré un jour, je tournais une veuve en or sur le plateau où j'étais en train de danser, faire un numéro de striptease rigolo, hein, parce que c'est un film d'Audiard, et Audiard c'est toujours pour s'amuser, pour rigoler. Et à un moment donné, j'avais dit à Audiard, on va avoir besoin d'une musique au début du film, je lui ai dit, on aura besoin d'une musique, très certainement, et évidemment une chanson, parce que c'est évident, d'après le scénario, il fallait continuer comme ça. On verra bien. Bon, et on a, est arrivé le moment où on a eu besoin de musique et chanson. Alors, Audiard me dit, mais t'inquiète pas. Il n'était jamais inquiet, de toute façon, donc c'était bien. Et ça mettait beaucoup de bonne humeur dans tout le monde. Et sauf moi, évidemment, j'étais très, très, très inquiète. J'étais en train de faire un numéro de striptease rigolo, soi-disant, bon, pour le film, bien sûr. Et sans musique. Alors il me dit, bon écoute, t'inquiète pas, je vais réfléchir, je vais trouver quelqu'un. Le lendemain, il me dit, j'ai trouvé quelqu'un cette nuit en téléphonant à un ami, voilà, j'ai trouvé ce qu'il te faut. Bon, c'est un petit jeune homme qui fait de la musique, qui est pas très connu encore, un petit peu seulement, pour les initiés. Mais tu verras, ce sera bien. C'est un garçon qui va sûrement avoir une grande popularité un jour ou l'autre. Il va sortir de là, il va devenir un très très grand. Alors j'ai dit, ah bon, comment il s'appelle? Ah bon, très bien. Et il me l'amène sur le plateau où je suis en train de gigoter comme une cinglée pour le film. Et il arrive sur le plateau, il l'installe au milieu du plateau et avec un, il fumait comme un pompier, on dirait, c'est ce qu'on dit en général. Enfin bon, il était petit, gentil, tout timide. C'est un garçon qui était absolument gentil, mais il faisait presque peur tellement il allait dire tendre et gentil. Et mais il fumait. On lui met une chaise au milieu du plateau et il attendait que ça se passe. Enfin, c'est-à-dire que je continue à danser, à aller, venir, etc. À la fin de la journée, il restait là, mais impassible, sans dire un mot, sans rien. J'étais absolument estomaquée. Je me disais, mais qui c'est ce jeune homme bizarre? Et il s'en va, comme il est arrivé. Le lendemain, le metteur en scène me dit, Audiard me dit, mais écoute, ça y est. J'ai dit, mais quoi, il m'a dit, ça y est, j'ai la chanson et la musique et la chanson. Dit, ah ben dis donc, en 24 heures, il dit non, en 24 heures, c'est toute la nuit, il l'a fait, ça y est, on l'a. J'ai dit, alors, ben voilà, tu peux y aller, tu peux chanter ça. J'ai dit, attends, chanter ça, c'est quoi? Et alors, on m'a dit, bon, vous allez vous rencontrer, et puis vous allez essayer ensemble de travailler, etc. Sur cette entrefaite, évidemment, ça fait un petit peu le tour, je sais pas de quoi, mais du cinéma, pas vraiment, mais de la musique non plus. Et Lucien Maurice, que je connaissais depuis plusieurs années, pas vraiment ami, mais très copain et très gentil, que j'aimais beaucoup, me téléphone en me disant, voilà ce que j'ai appris, parce qu'il est au courant toujours de tout, et il me dit, mais écoute, je viens d'écouter, il avait déjà écouté plus ou moins, je ne sais pas comment d'ailleurs, en tout cas, je sais que tu vas faire une chanson pour Gainsbourg. Je sais pas, j'espère, j'en sais rien. Moi, je sais pas si ça va marcher. J'ai jamais chanté vraiment, même pour moi dans ma baignoire, comme tout le monde le fait. Moi, jamais. Parce que je trouve que c'est un vrai métier. Chanter pour s'amuser, c'est bien. Mais j'ai été danseuse, comédienne, tout ce qu'on veut. Mais je peux chanter, je me vois pas chanter. Mais je viens, je t'emmène avec moi et on va aller voir Gainsbourg dans sa maison. Et nous, la partie chez Gainsbourg, où nous arrivons dans une maison tellement noire, on se demande bien qu'est-ce qu'on y fait. Et lui est habillé évidemment tout en noir, et je suis très très impressionnée, je peux vous dire, très très impressionnée. Et alors, il se met à jouer tout de suite en arrivant la musique qu'il venait de composer lui-même la veille. Et il me dit, allez, on y va. J'essaye quand tant bien que mal de le suivre. J'avais même pas un bout de papier pour lire ce qu'il voulait chanter, me faire chanter en tout cas. Enfin, tout se passe bien et très vite, Lucien Maurice, bon, alors maintenant, allez, on enregistre. J'ai dit, mais attends, ça va, moi, tu crois que ça va? Moi, j'étais terrorisée, mais vraiment terrorisée. J'ai dit, mais si, je te le dirai autrement, tu chantes juste, ça va, c'est bien. J'ai dit, maintenant, c'est pas mon métier, j'y connais rien. Mais si, il me dit, maintenant, c'est pas la peine de chanter la Traviata tous les jours. C'est plus de dangereux, c'est fini, ça. On peut faire aussi de très belles musiques, toutes simples, avec une... tout simple, même que si tu as jamais chanté, tu verras, ça va devenir vraiment un grand style pour l'avenir. Bon, nous voilà partis, donc, avec Lucien Maurice, donc, qui avait décidé de me faire une chanson pour moi. Et je lui ai dit, bon, écoute, c'est bien, mais moi, j'y connais rien, je sais même pas ce que je fais, là. Mais écoute, ça va, du moment que je te dis ça va, on y va. Et c'était évidemment Europe 1, dont il était le directeur à l'époque, et nous enregistrons à Europe. Donc tout se passe, on fait une fois, deux fois, trois fois, etc. Il décide. Gainsbourg me dit, bon, bah, écoute, tu vois, là, la deuxième phrase est mieux que la troisième, il faut un petit numéro de montage déjà sur place, éventuellement, et en quelques minutes, tout est fait, voilà. Disons qu'au bout de 2-3 heures, tout était fermé. Et moi, ce que je devais faire, c'est repartir avec une musique.
Je suis la fille qui fait ma robe de métal fait. Oui, c'est elle qui fait à chaque mouvement que je fais. Quand tu l'entendras plus, quand elle se sera tue, c'est que je n'aurai plus ma petite robe en alu. Dans ma robe d'argent, je sens comme un courant électrique de 200 volts qui descend le long de ma colonne vertébrale. C'est comme si j'emmenais un homme de Gomorrah à Sodome. Je suis la fille qui fait ma robe de métal fait. Oui, c'est elle qui fait à chaque mouvement que je fais. Quand tu l'entendras plus, quand elle se sera tue, c'est que je n'aurai plus, c'est que je serai nue. suis la fille qui fait, ma robe de métal fait. Oui, c'est elle qui fait, à chaque mouvement que je fais. Quand tu ne l'entendras plus, quand elle se sera tue, c'est que je n'aurai plus, c'est que je serai nue.
La fille qui fait tchic-tchic, une chanson de Serge Gainsbourg, interprétée par Michel Mercier avec les arrangements de Jean-Claude Vanier, une chanson quasi incunable, on pourrait dire, qui avait été retrouvée donc, dans la première édition de ce coffret. Enfin, elle avait figuré, puis elle avait disparu, puis elle est réapparue enfin de façon définitive dans ce coffret. Donc, les aventures de cette chanson ont été assez importantes. Elle a disparu pendant longtemps. Mais elle est là et elle est dans le coffret. Le cinéma de Serge Gainsbourg est auparavant, donc au téléphone de Cannes, pas en direct, mais en tout cas, il y a quelques temps, la voix de Michel Mercier aujourd'hui, qui a raconté un peu cette aventure brève avec Serge Gainsbourg pour cette chanson sur le film de Michel Audiard, Une veuve en or. C'en est terminé avec Serge Gainsbourg, mais on retrouvera, je l'ai déjà dit, mais je le redis, Jean-Claude Vanier la semaine prochaine. Ce sera évidemment, on ne parlera pas de Serge Gainsbourg parce qu'on en a déjà pas mal parlé aujourd'hui et la semaine dernière. Et maintenant, évidemment, on va retrouver la chronique de Charles-Pierre Vallière, Essentiel BO. Bonsoir Charles-Pierre.
Bonsoir Thierry.
Dites, oh, tu aimes ça la musique?
La musique? Ah oui, j'aime ça, surtout après un bon déjeuner.
My name is Max. My world is fire and blood.
Bonsoir à toutes et à tous, et oui, ça faisait 30 ans que le dernier volet du héros solitaire et désenchanté, donc Mad Max, était sorti sur les écrans. Alors, encore une fois, hein, c'est le réalisateur George Miller qui est aux manettes de ce film à l'univers post-apocalyptique, avec la sortie spéciale ce jeudi de Mad Max Fury Road, donc projeté hors compétition au Festival de Cannes. Et donc, si les films de Mad Max, dont justement le premier volet était sorti en 1979, lui, sont devenus mythiques, on ne peut pas dire que les musiques le soient aussi. Alors pourtant, ce sont justement des bandes originales pour les Mad Max qui collent parfaitement justement à cet univers, qui sont vraiment excellentes. Mais une des raisons à cela, à mon avis, est justement que ces bandes originales de Mad Max n'ont pas tellement recours aux mélodies, à des mélodies très marquantes que l'on pouvait entendre justement à la même époque, des films de la fin des années 70, début 80, films de SF, par exemple, Thierry, on peut penser à Star Wars, ou E.T. encore, hein, de John Williams, il y a également Star Trek, le film sorti en 1979, donc la même année que Mad Max, musique de Jerry Goldsmith avec une mélodie très emblématique. Donc là, pas du tout. En fait, pour les deux premiers Mad Max, c'était Brian May qui s'était occupé de ça. Il avait fait des films d'horreur, Brian May. C'était une bande originale qui était plus axée donc sur les... Alors, certes, on retrouvait des éléments très symphoniques, des cordes, mais aussi beaucoup de cuivre et parfois des touches électro sans mélodie. Après, on avait eu Mad Max au-delà du Dôme du Tonnerre en 1985. Là, c'était Maurice Jarre qui avait fait la musique. Là, cette fois-ci, on était plus avec les cuivres et les cordes. Et donc pour Mad Max Fury Road, eh bien c'est Tom Holkenborg qui est un donc compositeur néerlandais qu'on connaît mieux évidemment sous le nom de Junkie XL et qui a fait justement, alors c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé dans la musique la progressive house mais qui a quand même fait donc plus récemment des bandes originales de films, notamment 300, Rise of an Empire, Run All Night qui est très électro, très ambiante et sound design. Et donc pour Mad Max Fury Road, Junkie XL s'est glissé cette fois vraiment dans la peau de Brian May et de Maurice Jarre. Seulement, il a vraiment transcendé complètement les genres de l'un et de l'autre, sans faire appel justement au Mickey Mousing qu'on pouvait leur reprocher parfois, pour donner une dimension complètement épique à cette bande originale qui est une course vraiment infernale pour la survie de ces personnages. Voilà, bande originale vraiment tonitruante, comme vous dites Thierry.
J'ai dit ça bastonne.
Ça bastonne,
hors mais... micro, je le redis. Hein,
ah non, mais c'est vraiment ça. Et pendant tout le film, justement, on est complètement écrasé, martelé par cette musique. D'ailleurs, qui fait quand même la part belle à des dissonances, donc à ces accords tonitruants. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que bon, alors c'est un montage justement qu'a fait le réalisateur Bruno Riumayard là de deux musiques pour qu'on entende en fait ces accords qui ressemblent justement beaucoup à la passacaille
de la. Pas le réalisateur de Mad Max,
le réalisateur de Cinéma Song, pardon, bien sûr, et pour qu'on entende justement ces accords qui font penser vraiment, enfin pour moi, à la passacaille de Penderecki, de Krzysztof Penderecki, sa symphonie numéro 3, qu'on entendait justement dans Shutter Island. Donc il y a des références comme ça qui passent pas inaperçues, même il y a tout simplement un extrait du Dies Irae de Giuseppe Verdi, donc en fait, enfin du Requiem de Verdi plutôt, et malgré tout, eh bien Junkie XL conserve des moments plus tendre, avec eh bien des musiques qui sont un peu mélancoliques, qui correspondent à certains moments de Mad Max. Bon, je vous le révélerai pas, mais là peut-être qu'il y a une surenchère. Enfin, ça casse un peu le rythme. C'est un peu le seul reproche qu'on peut faire à cette BO. Mais sinon, c'est vraiment une BO magnifique. Un extrait de la bande originale du film Mad Max, cette fois-ci beaucoup.
C'est en effet assez différent de ce que vous aviez proposé au début.
C'est beaucoup plus tendre. Mais donc on a effectivement ce type aussi de passage un peu plus mélodique, mais c'est pas du Mickey Mousing comme on pouvait trouver justement dans les autres Mad Max. Alors donc cette bande originale est disponible, donc elle est sortie chez Water Tower Music depuis le 12 mai. Le film est projeté exceptionnellement ce soir à Cannes hors compétition. Et puis il faut savoir que Junkie XL a prévu de faire une bande originale sur Batman vs Superman Dawn of Justice. On l'attend bientôt avec Hans Zimmer. Voilà, prévu en 2016 quand même.
Oui, on en reparlera. Merci Charles-Pierre. On va se séparer maintenant puisque l'heure tourne. J'étais ce soir en compagnie de Dorothée Goll, d'Emmanuel Rose, de Sophie Saliou-Marie. Déborah Dagobert était à la technique et c'est l'indispensable Bruno Riumayard qui réalisait comme chaque semaine ce cinéma song. La semaine prochaine, donc je le redis pour la troisième fois, on retrouve Jean-Claude Vanier sans Gainsbourg pour évoquer sa carrière de musicien de film.